Donc nous, on continue notre message aujourd'hui dans l'Épître aux Galates. C'est le sixième message. Ce n'est pas chapitre 6, c'est le sixième message. Les œuvres charnelles, c'est-à-dire la vie naturelle humaine et la restauration. Hein, la restauration après le péché. Donc sur Internet, j'ai appelé ça le péché et la restauration. Donc, on commence aujourd'hui en parlant de la réalité de notre humanité, même en tant que chrétien. Et par la suite, comment restaurer le chrétien qui a péché. Puis la prochaine fois, on va terminer l'étude dans l'Épître aux Galates en parlant de la relation entre la loi, les œuvres et la grâce. Nous savons que le salaire du péché est la mort. La Bible dit l'âme qui pêche mourra. Et oui, la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset continue, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et c'est à cause de cela que nous avons demandé pardon pour nos péchés. Demander pardon pour nos péchés par l'Évangile, c'est le point de départ pour la vie nouvelle. Donc Paul adresse cette lettre aux églises de la Galatie à ceux qui sont gratuitement justifié par sa grâce. Il n'écrit pas aux non-chrétiens. Il écrit aux chrétiens. Pourtant, et c'est le point à retenir, et c'est le point vraiment d'où part le message aujourd'hui, eh bien, justifié par sa grâce ne veut pas dire rendu parfait. Être justifié par sa grâce ne veut pas dire que nous étions rendus parfaits dans la pratique de la vie. Ça, on appelle cette progression de la vie, on l'appelle la sanctification. Donc, pour ceux qui voudraient, j'ai ce petit livre, Les deux natures du croyant, que je pourrais vous l'envoyer par la poste. Donc, si vous m'envoyez un petit mot sur l'adresse qui est sur la page Internet, accueil, pour le centre biblique, il y a une adresse mail où vous pouvez réclamer ce petit livret. OK? Le problème, c'est que les chrétiens de la Galatie voulaient compléter leur salut en Christ avec des œuvres et des rites religieux. Et puis, ils voulaient s'assurer de leur sanctification en suivant des règles. Mais Paul dit clairement que non, ça ne peut pas se faire. Tout cela ne fait qu'enlever, ça élève la chair et réduit à néant l'œuvre de Jésus-Christ. Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 21, pour la deuxième partie du verset, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Qu'en est-il donc des chrétiens qui péchent? Dieu les rejette-t-il? Devrons-nous les exclure de nos églises? Jacques a terminé son épître dans Jacques chapitre 5, versets 19 et 20, avec cet encouragement. Il a dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est éloigné loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude
de péché.
La réalité
que nous voulons vraiment voir aujourd'hui, c'est que les chrétiens pêchent.
Jean l'apôtre dit que si vous pensez autrement, si vous prétendez ne plus pécher, vous mentez à vous-même. Paul a dit dans Romains chapitre 7, verset 14, « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais que moi, dont Paul parle de lui-même, mais de nous tous, bien sûr, je suis charnel, vendu au péché. » Dans les derniers deux messages, nous avons parlé des fruits tels que l'amour, la joie, la patience, la paix que l'Esprit produit dans les enfants de Dieu. Et nous avons aussi parlé de la nature spirituelle de la vie chrétienne. Malgré cela, nous devons parler aujourd'hui de la maladie spirituelle chez les enfants de Dieu. Que ce soit dans nos pensées, pratiques ou nos attitudes, Dieu considère le péché chez les chrétiens comme du levain dans le pain, aussi contagieux qu'un virus. Si la communauté se laisse infecter, il faut quitter cette communauté. Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 18 et verset 4, « Sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses œuvres. » Quelle catastrophe si l'Église se laisse infecter par le péché et plein de choses mondaines, n'est-ce pas? Mais pour éviter une telle catastrophe, il faut écarter et isoler en quarantaine les malades spirituels pour protéger la communauté. Alors Jésus a expliqué la procédure à suivre dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Donc on va lire dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ah ben voilà, c'est ça qu'on veut. On veut qu'on restaure les relations. On veut que ceux qui ont péché reconnaissent leur péché, ils l'admettent, ils disent « Pardonne-moi frère, j'ai fait ça contre toi. » Et voilà, la vie continue. Mais au verset 16, « S'il ne t'écoute pas, donc s'il persiste en dépit du fait que tu es venu le voir, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, donc à l'assemblée, à la communauté. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, ça veut dire l'église locale, donc on a parlé de ça, donc le pasteur venu parler avec lui, etc. Et s'il écoute, il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Donc, ça veut dire que quand tous les efforts ont failli, hein, à la fin, en dernier recours, Jésus dit qu'il faut écarter de la communauté tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui insistent dans le péché. Pourtant, l'objectif, c'est la restauration, la guérison, le retour à la vie chrétienne normale. Donc, avant de dire ces choses-là, qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17, eh bien, avant de dire ces choses-là, Jésus avait parlé de la brebis perdue dans le paragraphe précédent, dans Matthieu chapitre 18. Donc on est toujours dans Matthieu chapitre 18, mais là on est dans les versets 11 à 14. Matthieu 18, 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus.
que vous en semble. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et, verset 13, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père, qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Bon, nous voyons bien que Dieu désire la restauration des brebis perdues. C'est le point de cette histoire. Dieu veut qu'on ramène à une bonne vie chrétienne normale les chrétiens qui s'égarent. Alors on peut poser des questions. Pourquoi les brebis s'égarent? Pourquoi elles se perdent en chemin? Penchons-nous sur le fond du problème dont les brebis représentent quand même les êtres humains dans cette histoire. Le fond de ce problème, c'est le cœur humain. Jésus a parlé de ce qui est dans le cœur humain, dans nos émotions et nos pensées, dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 21, Jésus dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Le tableau n'est pas beau. Jacques a parlé de la difficulté de dompter, je dis difficulté, impossibilité, de dompter la langue, l'organe qui exprime souvent les sentiments du cœur. Il dit dans Jacques, donc on est dans Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3 verset 8 à 10, Jacques chapitre 3 verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Tout au début de la Genèse, nous voyons par l'exemple de Caïn que les pensées deviennent des paroles qui finissent à la fin par se concrétiser en mauvaise action. Il a tué son frère. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, Galates chapitre 5, donc le message concerne l'épître aux Galates, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Paul dit, de la nature pécheresse humaine, donc ce qu'il appelle ici la chair, il dit, or, les œuvres de la chair, donc les œuvres de la nature humaine, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Jérémie a dit dans chapitre 17, versets 9 et 10, Jérémie 17, versets 9 et 10, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Notre nature pécheresse est tellement tordue que nous arrivons à excuser nos péchés. Regardez l'orgueil des membres
de l'église de Corinthe. Ils se vantaient de leur vie charnelle au lieu de s'en lamenter. Dieu devait intervenir avec non pas une lettre, mais deux lettres pour les rappeler à l'ordre. Le fait, c'est que nous, les chrétiens, nous péchons tous. Et cela n'est pas étonnant, puisque le péché vient tout naturellement de l'être humain. On est des êtres humains. C'est pour ça que je vous propose le petit livre pour aider à comprendre ce problème. Grâce à l'Évangile, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et grâce au Saint-Esprit qui est en nous, nous avons l'autorité de vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Comme je vous ai déjà dit, Paul a adressé cette lettre aux chrétiens de la Galatie parce que ces chrétiens pensaient que leurs œuvres humaines pouvaient effacer le nouveau péché. Mais non. Selon Ésaïe, chapitre 64 et verset 5, nos œuvres humaines, les meilleures, sont teintées, sont polluées. Je vais lire, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, nos bonnes œuvres, ce que nous considérons d'être les actes justes, toute notre justice, il dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Comme un vêtement souillé. Il est impossible que nos œuvres polluées par la nature pécheresse puissent plaire au Dieu saint. Cependant, pour nous rassurer, hein, parce que là, jusqu'à là, c'est assez déprimant, hein? Mais pour nous rassurer, Dieu nous dit, et il dit à plusieurs reprises, que les péchés de ses enfants ne peuvent en aucun cas effacer le nom de livre de vie. Car notre salut est éternel malgré nos péchés. C'est même à cause de nos péchés que Christ est mort pour, non pas quelques péchés, mais pour tous nos péchés, une fois pour tout. C'est fini. Nous savons, en tant qu'êtres humains, que nous allons pécher. Sauf, la Bible nous dit, quand nous marchons avec Dieu, selon l'Esprit qui est en nous. Et c'est pour cela que Paul dit en Galates, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contre ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Le problème, c'est quand nous ne marchons pas selon l'esprit, quand nous retombons dans les pratiques tout à fait humaines, donc tout à fait naturelles à notre être humain, eh bien nous pratiquons les œuvres enracinées dans la chair. Je vais relire dans une autre traduction, Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Les œuvres enracinées dans la chair. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce que Paul veut dire, c'est que
les non-chrétiens seront condamnés à cause de ces choses-là, à cause de leur péché. Comment pouvons-nous, nous les chrétiens, aimer une telle vie, de vivre comme les non-chrétiens? Certes, nous ne perdons pas le salut, mais nous rompons la communion temporelle que nous avons avec Dieu et avec les autres chrétiens. Nous attristons le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous et nous éteignons son œuvre en nous et à travers nous. Que faire après le péché? Quand un chrétien a péché, comment aider le chrétien à revenir à une vie spirituelle? Bon, c'est là que nous arrivons dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, les versets 1 à 5. Galates chapitre 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc ce mot « redresser » signifie « restaurer », »,« remettre ensemble », »,« rendre complet ». Donc vous pouvez imaginer, vous avez un puzzle et puis un enfant vient déranger les morceaux de puzzle. Maintenant, il faut le remettre ensemble. Voilà, c'est ça l'idée de « redresser ». Malheureusement, selon les fautes commises, la restauration totale n'est pas toujours possible. Une personne que vous avez tuée ne peut pas être untuée. Hein? Une chose volée peut être rendue, mais plein de choses, une parole dite ne peut pas être reprise. Plein de choses. Donc, attention à vous. N'ayez jamais l'orgueil de penser que vous seriez immunisé de tel ou tel péché. En tout cas, pour ramener une personne sur le bon chemin, il ne faut pas la condamner, il est déjà condamné, mais il faut l'aider en utilisant les outils donnés par le Saint-Esprit comme l'amour, la patience, etc., avec l'humilité. Toujours dans chapitre 6, verset 1, « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Tenté comment? Tenté parce que vous n'êtes que humain. Tenté par le péché. Tenté par l'orgueil. Tenté d'agir selon vos penchants humains et non pas l'esprit. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplira. Ainsi, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle loi? La loi de nous aimer les uns les autres. Lorsque vous aidez un frère ou une sœur, vous portez son fardeau. Mais vous ne pouvez pas tout faire. Il faut que la personne se prenne en charge, tôt ou tard. Il faut que la personne reconnaissent ses fautes selon le point de vue biblique et qu'elles confessent et demandent pardon aux personnes contre lesquelles elle a péché. Verset 3, Galates 6, 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il abuse lui-même. Attention à l'orgueil. Nous ne sommes pas tous en mesure d'aider les autres. Il faut connaître vos propres limites. Sinon, vous risquez à faire du mal, non seulement à l'autre personne, mais aussi à vous-même. Beaucoup de chrétiens, et je pense aux professionnels aussi, hein, beaucoup de chrétiens qui donnent des conseils se trouvent parfois accablés devant la réalité pesante de la misère humaine.
laisser aux soins des personnes les plus capables pour restaurer les frères et sœurs qui sont en souffrance. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Dans le verset 3, le verset 3 a relevé le problème de l'orgueil dans le domaine de l'œuvre spirituelle. Maintenant, ici, le verset 4 relève la rivalité, la compétition charnelle qui en découle de cet orgueil. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3 et verset 6 que les anciens, les pasteurs et donc les gens qui donnent du conseil ne doivent pas être jeunes dans la foi. Il dit, il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti de peur que, enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. L'orgueil est toujours un problème au fond de l'être humain. Efforçons-nous de marcher dans l'humilité. Dieu est bien capable de voir et d'apprécier ce que nous faisons pour lui. Et puis le verset 5, car chacun portera son propre fardeau. On peut aider, mais il y a une limite. Et il y a des choses que chacun doit faire. Là où nous pouvons aider les autres, nous devons le faire. Mais il y a toujours, toujours, toujours des limites. Chacun est responsable devant Dieu d'accomplir sa part, ses responsabilités, quoi que soit le domaine. Donc, je vais faire un petit résumé. Donc, nous avons dit que l'être humain est pécheur, même quand la personne est sauvée. Nous risquons tous de manifester les œuvres propres à notre humanité. Heureusement, Dieu nous a donné son Saint-Esprit qui nous rend capables, je parle à ceux qui sont sauvés, Dieu, nous, les sauvés, les gens qui ont cru à l'Évangile, Dieu nous a donné son Saint-Esprit qui nous rend capables de plaire à Dieu. Plaire à Dieu quand nous marchons avec lui. Le Saint-Esprit nous rend capables de vivre au-dessous de simples humains et de vivre comme l'enfant de Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Quand nous ne marchons pas selon l'Esprit, quand le chrétien ne marche pas selon l'Esprit, nous sommes voués à marcher selon notre humanité et donc de commettre les choses indignes aux yeux de Dieu. Ceci est vrai pour chacun d'entre nous. Quand cela arrive, nous avons besoin d'un frère ou d'une sœur pour venir à notre aide, pour nous aider à guérir spirituellement. Ce frère ou ce sœur doit respecter ses propres limites et agir dans l'humilité de peur qu'il ne tombe dans le péché de la personne spirituellement malade, ou qui ne tombe dans l'orgueil. Et bien sûr, l'objectif dans tout cela est de restaurer le frère ou la sœur à une vie chrétienne normale. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que le Seigneur parle à chacun de nous dans nos cœurs. C'est vrai qu'on est tous êtres humains. On pêche. Dieu pardonne. Il n'y a pas de doute, mais on a besoin des fois de l'aide et on pourrait peut-être aider les uns et les autres. Alors, je vais vous souhaiter une bonne semaine à vous tous, notre petit groupe ici, mais aussi nos amis qui sont sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, si vous voulez le petit livre, je peux vous l'envoyer si vous écrivez à l'adresse qui est sur la page d'accueil
de Centre Biblique Brive sur Facebook. Le Seigneur vous bénisse.